Et bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. De notre côté, on termine notre semaine consacrée au poète florentin Dante Alighieri.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dante Alighieri est mort il y a exactement 7 siècles à l'âge de 56 ans. De sa vie, nous savons au fond peu de choses, si ce n'est qu'il a été non seulement un poète, mais également un philosophe, un homme et un théoricien politique, ainsi qu'un homme engagé, et que cela lui a valu d'être exilé de sa ville de Florence, comme nous l'a raconté Bruno Pinchard au cours de notre premier épisode à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France. Son œuvre, elle va bien au-delà de la Divine Comédie. Il faut en effet compter avec son premier texte, La Vita Nova, mais aussi avec Le Banquet, La Monarchie, ou encore son traité de l'éloquence en langue vulgaire, ainsi que nous l'a expliqué Didier Ottaviani, qui nous a dépeint cette œuvre totale dans notre deuxième épisode. Œuvre dans laquelle Dante raconte son expérience de vie. La Divine Comédie, enfin, c'est Daniel Robert qui l'a évoquée pour nous dans le troisième moment de cette série. Daniel Robert qui l'a traduite, la Divine Comédie, pour les éditions Actes Sud. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, pour essayer de se faire une idée des lectures possibles de la Divine Comédie, en nous intéressant aux principaux écrivains pour qui Dante constitue une veine fondamentale, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ferrini, auteur de l'essai « Lecture de Dante » publié en 2006 aux éditions Hermann, où il avait déjà publié quelques années auparavant le livre « Dante et Beckett » avec une préface de Jacqueline Risset.
Perdre tous les livres et sauver un livre, ce livre serait la Divine Comédie. Je suis sûr de ne pas me tromper parce que je n'ai pas de raison personnelle, des idoles specus, comme dirait Bacon, pour aimer Dante, puisque je ne partage pas sa religion, je ne partage pas sa mythologie, l'idée de l'enfer, du purgatoire, du ciel, tout cela. Très loin de moi, mais quand même, quand je lis, quand je relis la comédie, si j'accepte cette mythologie catholique, cette mythologie chrétienne, c'est-à-dire que j'admire Dante du point de vue esthétique, parce que je ne partage pas son éthique, ni sa religion, ni ce que pour moi est une mythologie.
L'écrivain est également grand lecteur. L'Argentin Jorge Luis Borges, pour introduire cette émission sur les lectures de Dante. Avec vous, donc Jean-Pierre Ferrini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi un grand lecteur de Dante. Depuis combien de temps?
Depuis longtemps.
Vous vous souvenez pas de votre découverte de la Divine Comédie, par exemple, ou du premier livre que vous ayez lu de lui?
C'est-à-dire que là, vous m'entraînez vers une réponse un peu biographique. Il se trouve que je suis effectivement un grand lecteur, je sais pas, mais en tout cas un lecteur, mais un lecteur tardif. J'ai commencé finalement à lire assez tard.
C'est-à-dire?
Plutôt après l'adolescence, je lisais un peu, mais donc j'ai commencé assez tard, enfin disons vers 18-19 ans, j'ai 17-18, j'ai commencé à lire Dante dans ma 20e année, ce qui est pas mal. Hein.
Et comment on arrive à ce désir de lire Dante, de lire ce poète, quand même difficile d'accès?
Au départ, pour moi, il s'agissait aussi d'essayer de rejoindre mon patronyme Ferrini, mon père est italien, donc il y avait quelque chose comme ça qui m'attirait. Et puis ensuite les choses ont changé, mais c'est vrai que j'ai commencé à lire Dante dans le texte, Et puis, alors, encore plus tardivement, la traduction de Jacques Henry Say aussi a contribué à réveiller quelque chose encore en moi de plus fort.
Est-ce que ça l'a rapproché, finalement, de oui, la modernité, de
c'est ça,
la façon dont on voilà peut parler aujourd'hui?
Et ensuite, bien les écrivains ont joué un petit peu le rôle de Virgile, hein, de guide, puisque je me suis mis à relire Dante en lisant Beckett, puisque Beckett était lui un grand lecteur de Dante, hein, et donc je me suis intéressé à la manière dont il l'avait lu, donc ce qui a un petit peu guidé autrement ma lecture.
Comment lire Dante aujourd'hui? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser avec vous.
C'est-à-dire que il y a une histoire de la réception de Dante. Alors en France, mais aussi en Europe, on pourrait dire qu'à un moment donné, peut-être dans le courant du XXe siècle, enfin au début du XXe siècle, mais en France plutôt au milieu du XXe siècle. Peut-être qu'on s'est mis à moins lire Dante comme un poète. En tout cas, ce poète, il a peut-être perdu sa majuscule.
Pourquoi?
Et puis,
s'est passé?
On a plutôt attribué la majuscule au texte. On s'est mis davantage peut-être à lire le texte plutôt que le poète. Je dirais les choses comme ça. On s'est mis à lire Dante davantage comme un écrivain.
C'est-à-dire à le considérer biographiquement aussi, s'intéresser à lui, à qui il avait été historiquement, comme un écrivain, que pour le texte.
C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à sa poétique. Hein, le premier l'incipit de l'essai de Mandelstam de 1933 introduit tout de suite la question de la parole poétique. Donc on s'est mis davantage à lire son texte. Alors bien sûr, la question biographique, elle est importante, mais chez Dante, comme vous l'avez rappelé en introduction, on connaît finalement assez peu de choses, mais on connaît quand même un certain nombre de choses de sa biographie, de sa vie. Mais chez Dante, l'élément biographique et l'élément, disons, textuel sont très intriqués.
Alors, on va reprendre un petit peu justement l'histoire des lectures qui ont été faites de Dante au fur et à mesure des siècles, comme vous le faites dans votre livre Lecture de Dante chez Hermann, Jean-Pierre Ferrini. Il y a eu des moments à éclipse, il y a eu des moments où il est revenu davantage. On l'a d'abord beaucoup lu jusqu'à la fin du Quattrocento. C'est quelqu'un qui a une postérité immédiate qui existe, qui est relativement forte.
Ah oui, Dante de son vivant déjà, donc le texte circulait plutôt l'enfer, et il a été lu, hein, très vite, un de ses plus, enfin le Boccaccio qui a commenté, édité aussi l'œuvre de Dante, donc est quasi un contemporain, mais juste avant lui, Pétrarque aussi était lecteur de Dante, et puis un peu plus tard avec les illustrations de Botticelli, pour donner quelques exemples, Dante était donc immédiatement effectivement lu, et puis progressivement nous avons assisté à une forme d'éclipse. Qui est en partie, pour le dire très schématiquement, lié au pétrarchisme. Hein. On s'est mis davantage donc à suivre le modèle Pétrarque plutôt que le modèle Dante.
Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est que le modèle Pétrarque par rapport au modèle Dante?
Il y a un essai célèbre en Italie de Gianfranco Contini qui a non pas opposé, mais en tout cas qui a comparé la langue de Pétrarque et la langue de Dante, et il qualifiait la langue de Dante comme un plurilinguisme et la langue de Pétrarque comme un monolinguisme. Je crois que cette éclipse,
qu'est-ce que ça signifie?
Oui, justement, c'est ça. Cette éclipse, elle est sans doute liée à une forme comme ça de c'est-à-dire que Dante n'est pas un auteur classique. si vous voulez. Il y a, ce n'est pas pour rien qu'on le redécouvre avec le romantisme. Ce plurilinguisme, justement, convoque beaucoup de parlers différents, un lexique aussi parfois qui peut choquer, donc une langue qui correspondait de moins en moins à, disons, à l'esthétique classique. On peut peut-être l'expliquer comme ça.
Et alors après donc ce moment pétrarquien, il y aurait donc au XIXe siècle un retour de Dante, parce que les romantiques apprécient justement ce côté un peu baroque, peut-être, de la langue de Dante.
C'est ça. Alors, il y a quand même, dans cette réception, de Dante, il faut quand même évoquer peut-être avant quelques figures importantes, notamment dans la littérature française. Moi, j'aime bien toujours rappeler au XVe siècle la lecture de Christine de Pizan, qui est quand même très très importante, notamment dans ce livre Le chemin de longue étude. J'essaie d'en parler très très brièvement dans mes lectures de Dante, mais elle est sans doute en France la première à sa manière à le traduire. Dans Le chemin de longue étude, il y a des passages où elle le traduit, où elle l'imite même. C'est un texte très, très, très intéressant dans ce sens-là. Ensuite, il y a l'école lyonnaise, Maurice Sève. Donc, c'est une éclipse toute relative, mais il est évident qu'on lit beaucoup moins Dante qu'on le lisait au début. Et puis, en effet, à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, on se met à le relire. Alors, on considère davantage son enfer, hein, même si les lecteurs vont lire aussi la Divine Comédie dans son ensemble. Mais c'est finalement l'enfer avec quelques vignettes, quelques images qui vont donc apparaître. La plus importante, c'est le chant 5 de l'enfer, Paolo et Francesca, l'histoire de Paolo et Francesca qui vraiment va connaître une postérité importante, mais aussi Ugolin dans sa prison à Pise, qui est vraiment des moments à la fin de l'enfer qui vont beaucoup marquer, si vous voulez, les esprits.
Alors on peut écouter justement cet extrait du chant 33 de l'enfer, et puis vous nous direz ensuite ce qu'il vous évoque et puis ce qu'il a évoqué aussi aux romantiques.
Je ne sais qui tu es ni par quel moyen tu es venu ici, mais tu es Florentin, me semble-t-il, en vérité, quand je t'entends. Sache que je fus le comte Ugolino, et celui-ci est l'archevêque Ruggieri. Entends pourquoi je suis pour lui un tel voisin, que par l'effet de ses mauvaises pensées, me fiant à lui, je fus arrêté, puis mis à mort. Il n'est pas besoin de le dire. Mais ce que tu ne peux avoir appris, c'est combien ma mort fut cruelle. Enfermé dans un étroit pertuis dans la tour de la Mue, j'entendis pleurer dans leur sommeil mes fils qui étaient avec moi. Ils demandaient du pain. Tu es bien cruel si tu ne souffres pas en pensant à ce que pressentait mon cœur. Et si tu ne pleures pas, de quoi donc pleures-tu? Ils étaient éveillés. L'heure était proche où d'habitude on apportait la nourriture et tous étaient anxieux. J'entendis clouer la porte du bas de l'horrible tour et sans parler, je regardais mes enfants au visage. Moi, je ne pleurais pas. Mais j'étais pétrifié. Eux, ils pleuraient. Mon petit Anselme maudit, « Comme tu nous regardes, père, qu'as-tu ?» Je ne pleurais pas, ni ne répondis pendant tout le jour, ni la nuit d'après, jusqu'au retour du soleil sur le monde. Quand un faible rayon eut pénétré dans l'affreux cachot et que je découvris mon propre aspect sur leurs quatre visages de douleur, je mordis mes deux mains. Et eux, pensant que c'était par désir de manger, se levèrent aussitôt et dirent « Père, nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. »
Thank you.
Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons des relectures de Dante avec vous, Jean-Pierre Ferrini. Alors, quels seraient les textes, les auteurs qui, au 19e, durant ce moment romantique, reprendraient, par exemple, cette vignette dont vous parlez tout à l'heure et qu'on vient d'entendre, lui ici d'ailleurs, par Guillaume Gallienne, je le signale au passage.
C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on va effectivement s'intéresser au pathétisme de cette scène. C'est ce qu'on entend. Mais moi, j'ai plus envie si
allez-y, hein, je vous en prie.
À chaque fois, c'est ça aussi les lectures de Dante. C'est-à-dire que quand je lis. Ou quand j'entends lire ce récit du Golin, je pense toujours à la lecture de Mandelstam, qui comparait le son de cet aria, comme il le dit, à celui du violoncelle. Et je trouve ça très très beau. Et si vous le permettez, pour commenter ce chant, j'ai envie de lire ce qu'en dit
bien sûr, allez-y.
Le chant 33 de l'Enfer avec le récit du Golin qui raconte comment l'archevêque de Pise, Ruggieri, les a condamnés, lui et ses enfants, à mourir de faim dans une tour. Ce chant est enveloppé dans un timbre de violoncelle épais et lourd, semblable à du miel ranci, empoisonné. L'épaisseur de ce timbre de violoncelle est celle qui traduit au mieux l'attente et la torture de l'impatience. Il n'y a pas de force au monde capable d'accélérer le glissement du miel qui s'écoule d'un flacon incliné. Vous voyez, c'est ces déplacements qui m'intéressent aussi dans les lectures de Dante. C'est-à-dire que on va moins s'intéresser à l'histoire elle-même, mais on va, je pense que Mandelstam écoute plus qu'il ne lit Dante. Il écoute la musique de Dante. Vous voyez, c'est ce son qui compare à
partition d'un orchestre.
Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il compare aussi Dante. Un chef d'orchestre, hein. La musique est très présente dans son essai, mais pas seulement. Hein. Moi, j'aime bien, pour essayer d'expliquer ces choses-là, Jacqueline Risset a publié un essai qui s'appelle « Traduction et mémoire poétique ». Ce qu'elle explique, c'est comment, au fond, elle utilise l'expression de « pression intérieure ». C'est-à-dire, c'est comment... un texte qu'on lit ou qu'on traduit, de toute façon la lecture est aussi une traduction, comment ce texte presse sur celui qui écrit, cette pression intérieure, hein. Donc comment finalement le récit du Golin va, quelle pression intérieure va exercer le récit du Golin. Alors bien sûr on peut s'intéresser à ce que raconte l'histoire en soi, qui est tragique, hein, cette douleur, hein, la manière dont elle est exprimée. Je pense qu'on entendait davantage ça au 19e siècle, mais ensuite au 20e siècle, je pense qu'on a entendu les choses un peu autrement. Justement, on a été, comme je disais, plus sensible au texte.
C'est lui-même. Quoi cette pression intérieure dont vous parlez, enfin dont parle Jacqueline Risset?
C'est la manière dont les textes qu'on a lus, notamment Dante, agit sur ma propre écriture, hein, sur celui qui traduit, mais aussi sur celui qui écrit. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, je crois que Jacqueline Risset disait quand elle a commencé à traduire Dante que ce qu'il a interpellé, c'est que en se mettant à lire Dante de manière plus approfondie, et à le traduire, elle a observé que quelque chose changeait dans sa manière d'écrire. Donc ça l'a interpellé. Donc un écrivain un écrivain comme Dante exerce sur moi une pression qui fait que ma manière d'écrire s'en trouve modifiée.
C'est pour ça qu'il est autant repris.
Et là, Dante devient contemporain, si vous voulez. Là, Dante redevient contemporain. Et c'est ça, cette pression intérieure, cette mémoire poétique. Comment Dante continue d'agir. Et les écrivains, justement, qui sont des lecteurs, mais aussi des écrivains-lecteurs, des lecteurs-écrivains, eh bien, c'est ce que, au fond, Borges, dans l'exergue que vous avez placé, on l'entend. On entend ça, la manière dont Dante, la pression intérieure qui s'exerçait sur l'écriture de Borges.
Alors, on parlait de Mendelstam, on en reparlera aussi tout à l'heure dans la chronique de Pierre Cattaneo. Évoquons d'autres Russes, parce que les Russes ont pas mal lu quand même Dante, et notamment en lien avec toute l'histoire des camps de Sibérie, toute la question politique, les récits de la Kolyma, de Chalamov, parce que c'était l'enfer en fait, tout simplement là-bas.
Alors, c'était l'enfer de Dante. Oui. Chalamov n'est pas considéré véritablement comme un lecteur de Dante. Moi, dans l'essai, j'ai placé une sorte comme ça d'incise pour mettre en alors là on entre dans une autre thématique qui est très très importante dans les lectures de Dante au XXe siècle. C'est la question de l'enfer. Hein. Excusez-moi d'évoquer encore la mémoire de Jacques Henrisset, mais dans sa préface de l'enfer, et là. Placé en lettres capitales le signifiant d'Auschwitz. C'était assez surprenant. Hein. Mm-hmm. Et Edmond Jabès donc a été interpellé et il s'est mis à relire Dante en annotant la traduction de Jacques Henrisset en essayant de comprendre justement cette question, cette relation impossible entre l'enfer de Dante et Auschwitz. Alors la Kolyma c'est autre chose. Mais en lien avec cette question qui est très difficile, bien évidemment, on ne peut que penser à Primo Levi.
Bien sûr.
Donc lui, en revanche, est un lecteur de Dante et de la même manière qu'on ne peut plus entendre le chant 33 de l'enfer, en tout cas le récit du Gaulin, sans entendre ce son du violoncelle. Donc on est dans une forme d'anachronisme. Hein. Moi j'avais placé en exergue, excusez-moi, je reparle encore de Mendelssohn, qui est quand même des lecteurs les plus impressionnants de Dante. Hein. Il dit que les chants de Dante sont quand même des appareils à capter l'avenir. Hein. Ils appellent un commentaire au futur. Hein. Donc il y a toujours une forme d'anachronisme, bien sûr. Mais de la même manière donc on ne peut plus entendre le récit du Gaulin sans entendre le son du violoncelle, on ne peut plus lire le chant 26 de l'enfer, c'est-à-dire le chant d'Ulysse, sans penser à Primo Levi.
Joyce, lorsqu'il écrivait Finnegan's Wake, et lorsqu'il traduisait Finnegan's Wake en italien, il disait que pour se traduire lui-même, et ce qu'il y avait de plus hardi, c'est-à-dire Finnegan's Wake, bien, il prenait comme modèle la technique de déformation qui était celle de Padre Dante. Il le considérait comme son père, mais au sens véritable, c'est-à-dire génétique. Et donc, là, je crois que, en effet, si on lit Dante avec les yeux de Joyce, on reconnaît, on voit directement cette modernité.
Compagnie des heures avec un nouvel extrait d'une archive de Jacqueline Risset qui parle du rapport entre Joyce et Dante. Pourquoi, selon vous, Joyce finalement c'est le vrai disciple de Dante, Jean-Pierre Ferrini?
Alors, on peut dire de manière très hâtive que Dante a fondé la langue italienne, l'expression est impropre, mais en tout cas quand Dante et la décision Leopardi l'a magnifiquement rappelé plus tard, la décision d'écrire donc la Divine Comédie en italien, mais il avait déjà écrit d'autres œuvres en langue vulgaire, est quand même une décision très impressionnante, enfin très importante. Et donc cet italien est une langue naissante. Et ce qui intéressait Joyce, c'est ce qu'on peut appeler le surgissement de la langue. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre la langue à son état naissant et ce qui permet de l'inventer. Beckett dans son essai sur Joyce, hein, Dante Bruno Vico Joyce, un essai de jeunesse, rappelle très très bien cette relation là à la langue, hein. L'anglais de Joyce n'est absolument pas l'anglais que nous parlons. C'est une langue qui l'invente. Ce n'est plus de l'anglais. Hein.
Donc, de la même manière que Dante invente
avec
l'italien,
le latin, si vous
Joyce
voulez,
réinvente
voilà.
L'anglais.
C'est ça, le rapport peut-être anglais, l'anglais joycien, enfin la langue de Joyce et l'anglais. Et puis, alors je pense que la comparaison est un petit peu forcée, oui. Mais entre le latin et l'italien. Mais le latin chez Dante est une langue qui est encore très proche de son italien, ce qui a fait dire d'ailleurs à T.S. Eliot que l'italien de Dante était la langue la plus européenne, la plus traductible au fond, hein, celle qui nous était la plus commune.
Hein. Est-ce que Joyce fait des références directes à Dante ?
Alors, Joyce n'a jamais véritablement écrit directement sur Dante. On dispose pas de texte de Joyce sur Dante. En revanche, on sait que dans son œuvre, des livres ont été écrits à ce propos. Moi, j'ai essayé dans mes lectures d'en faire une brève synthèse, mais c'est-à-dire que le Dante n'est pas constamment, mais est extrêmement présent dans le texte de Dante, mais il apparaît compris, comme ça
peut-être
sous dans... forme de il apparaît comme ça sous forme de le texte apparaît un petit peu ruiné, si vous voulez, dans le texte de Dante. Il s'en empare avec beaucoup de liberté, et de temps en temps il va il y a un mot, un vers en italien qui va remonter à la surface du texte.
These fought in any case, and some believing pro domo in any case. Some quick to arm, some for adventure, some from fear of weakness, some from fear of censure, some for love of slaughter and imagination, learning later, some in fear.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Ezra Pound qui dit un extrait de la Divine Comédie. Alors, Pound, c'est aussi, avec ses cantos, paraît-il, une espèce de réécriture du paradis. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Du paradis, non.
Non.
En tout cas, c'est une
tentative. Il dit, je crois, hein, qu'il a voulu réécrire le paradis, mais je peux me tromper.
Je crois que les fragments, j'avais noté ça quelque part à la toute fin des cantos, une espèce de note, d'esquisse en vue d'écrire un dernier cantos. J'ai voulu écrire le paradis. Hein, j'ai voulu écrire le paradis, effectivement. Il a surtout voulu écrire, réécrire une divine comédie, hein, c'est-à-dire essayer de refaire au XXe siècle cette odyssée qu'est la divine comédie, hein.
Mais il disait aussi que c'était difficile d'écrire un paradis quand tout semble vous pousser à écrire l'Apocalypse. Il faut rappeler que Ezra Pound était plutôt un homme de l'Apocalypse d'autres choses.
Le projet s'est brisé, mais d'ailleurs, de toute manière, le projet lui-même est extrêmement fragmentaire. C'est une langue brisée, hein, il n'y a pas. Mais en tout cas, les cantos, effectivement, prennent comme modèle la Divine Comédie, hein, plus que le paradis. La Divine Comédie dans son ensemble, c'est-à-dire avec son enfer, son purgatoire et ce paradis qui s'est avéré au fond pour Joy quelque chose d'impossible.
En fait, il va y avoir quelque chose d'un peu pourri quand même derrière ces cantos pisants, puisque Pound n'a pas pu s'empêcher au fond d'être fasciste.
Oui, alors là, on entre, si vous voulez, dans des considérations qui sont en train d'être loin.
un mot encore sur Beckett, parce que quand même, vous avez écrit tout un livre sur
Oui, il y a un mot, oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur Dante et Beckett? Beckett, c'est pareil, c'est plutôt l'enfer que le paradis.
Oui, alors oui, ça me fait toujours penser ce titre parce que j'ai vous savez, quand on au départ, c'est un travail universitaire et donc on cherche un titre, etc. Alors pour les travaux universitaires, il faut plutôt des titres savants et finalement je suis resté à ce titre, Dante en premier. Et Beckett, et j'ai beaucoup, enfin, je me suis un petit peu attardé sur cette conjonction de coordination, hein, Dante et Beckett, Dante et les écrivains, hein, qu'est-ce qui nous coordonne encore aujourd'hui à Dante, hein. Alors, chez Beckett, cette conjonction de coordination, elle passe. Et c'est là aussi le génie de Beckett. Bien sûr, c'était un personnage connu des lecteurs de Dante, plutôt en Italie. Mais Beckett a mis l'accent. Alors, vous voyez, c'est encore un déplacement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette espèce d'imagerie. Mais je ne la critique pas. Elle est importante, hein, cette imagerie romantique, Paolo, Francesca, Ugolin. Il s'est arrêté sur un personnage. Qui est un négligent, que Dante rencontre au champ 4 du Purgatoire. Il s'appelle Bellaqua. C'est un personnage indolent. Dante, lui, peine à gravir les premières assises, les premiers remparts du Purgatoire. Nous sommes encore dans une zone que Dante appelle l'antipurgatoire. Vous en avez peut-être parlé dans les émissions précédentes, la manière dont est structurée la Divine Comédie. C'est un lieu que Dante, là, invente. Un avant-purgatoire, hein. C'est-à-dire qu'on est là, on attend autant de temps que sa vie a duré avant d'entrer au purgatoire.
D'accord, bon.
Beckett dira, on est si bien là que j'espère vivre le plus longtemps possible pour y rester le plus longtemps possible. Mais ce personnage a vraiment beaucoup intéressé Beckett, au point que le personnage de ses premières fictions s'appelle Bellaqua. Dans un roman qui n'est pas encore traduit, mais dans les nouvelles de Bande et Sarabande, le personnage s'appelle Bellaqua. Et ce négligent, si vous voulez, il est là. Dante lui peine, Virgile lui dit « Dépêche-toi, nous sommes pressés ». Alors ils essaient de monter, il y a des scènes quasiment d'alpinisme, là, au pied de cette montagne du purgatoire, qu'il va falloir quand même monter. Et tout d'un coup, il voit ce personnage, alors qu'il est dans une posture utérine, posture qui a beaucoup intéressé Beckett, et il le regarde, Bellaqua l'écoute, et puis ses répliques sont très laconiques, et Dante va le reconnaître. Il se trouve que c'est un ami, parce que dans la Divine Comédie, hein, c'est ça aussi, ce plurilinguisme de Dante, c'est-à-dire on rencontre de tout, des personnages à la fois antiques, on rencontre Ulysse, mais on rencontre aussi Bellaqua, si vous voulez. C'est Virgile qui guide Dante, mais il y a aussi des Florentins, beaucoup d'ailleurs dans l'enfer. Hein. Et ce Bellaqua était un ami de Dante, alors les premiers commentateurs disent qu'il était luthier, c'est pas dit dans le texte. Et à un moment donné, Bellaqua, alors bien sûr Beckett a déconstruit un petit peu cette réplique, il dit mais ô frère, c'est la première fois qu'un personnage appelle Dante frate. Et il lui dit mais ô frère, andare in su che porta, allez là-haut, qu'importe. Hein. Et Beckett observe avec évidemment beaucoup d'ironie que ce personnage de Bellaqua, qui était un ami de Dante, Florentin, est celui qui lui arrache son premier quart de sourire. C'est-à-dire que jusque-là, Dante n'a pas décroché un sourire. Évidemment, la descente de l'enfer était un peu rude. Hein. Une fois qu'il se retrouve alors dans une lumière éblouissante sur la plage du purgatoire, quelque chose change, mais très vite, il comprend que l'ascension va être pénible. Hein. Il y a un rapport entre ascèse et ascension qui est très belle. Et donc Beckett s'est beaucoup attardé sur ce personnage de Bellaqua, et on va le retrouver beaucoup dans ses fictions, même plus tard. Hein, mais là, si vous voulez, ça nous entraînerait dans une lecture plus longue, et il faudra faire une émission sur Dante et Beckett.
Sur ce sujet. Ce qu'on va faire d'abord, c'est d'écouter la chronique de Pierre Cattaneo, car nous en arrivons à la moitié de cette émission, et c'est le moment de notre traditionnel contrepoint du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pierre Cattaneo, étudiant en philosophie et, ne le cachons pas, ancien stagiaire de la Compagnie des œuvres. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Merci de revenir nous voir. On a déjà évoqué un peu aussi Mendelstam avec Jean-Pierre Ferrini, mais vous, vous souhaitez nous parler d'un livre de lui en particulier qui s'appelle « Entretien sur Dante ».
Tout à fait, j'aimerais vous parler précisément de ce petit livre écrit par le poète russe Ossip Mandelstam en 1933, lorsqu'il était en exil. C'est à mon sens un des meilleurs guides de voyage pour une traversée poétique de l'au-delà dantesque. Dans ce livre, Mandelstam propose au lecteur une multitude de chemins à parcourir à travers la Divine Comédie. Tout d'abord, la poésie de la Comédie est présentée comme une célébration de la marche de l'homme. Selon Mandelstam, le pas, associé au souffle et imprégné de pensée, est pour Dante le principe de la prosodie. Dante évoque la marche de multiples manières, et la marche rythme la poésie de l'au-delà. L'enfer est parcouru pas à pas, et les pieds de Dante et Virgile en mesurent l'ampleur et la dureté. Après l'effort de la marche, Mandelstam nous invite à tendre l'oreille, car la Divine Comédie est aussi fondamentalement, nous l'avons déjà dit, musicale. Si nous apprenions à entendre Dante, écrit le poète russe, nous entendrions mûrir la clarinette et le trombone, la viole se muer en violon et s'allonger le pavillon du corps. À travers les voix des personnages, Mandelstam fait entendre le timbre épais du violoncelle et la puissance de l'orgue, et nous apprend à lire les chants de Dante comme les partitions d'un orchestre. Plus surprenant, Mandelstam s'approche de Dante avec un marteau de géologue pour parvenir jusqu'à la texture cristalline de sa roche, pour étudier ses impuretés, ses fumées, sa limpidité, pour en estimer la valeur en tant que cristal de roche exposé aux accidents les plus disparates. Le poème dantesque serait ainsi un corps stéréométrique d'une rigueur extrême, le développement continu d'un thème minéralogique. C'est que Mandelstam est fasciné par la matérialité des vers de Dante, et notamment par ce qu'il appelle la convertibilité ou la mutabilité de la matière poétique. Il évoque, par exemple, cette image fabuleuse. Imaginez-vous un avion qui, en plein vol, construirait et lancerait un second avion. Et ce nouvel appareil parviendrait à son tour à assembler et à lâcher un troisième avion, et ainsi de suite. Cette métaphore inouïe rend très bien compte, à mon sens, du mouvement et de la composition interne des chants de la Comédie, qui rappelle encore, selon Mandelstam, l'horaire des lignes aériennes ou la circulation infatigable des pigeons voyageurs.
Oui, c'est vrai. Et puis ce qui rapproche aussi Mandelstam de Dante, c'est que tous les deux, eh bien, ce sont des exilés.
Tout à fait. 700 ans après la mort de Dante, la lecture de Mandelstam nous le rend plus vivant que jamais. Le poète russe le connaît intimement, lui qui vécut en exil, comme Dante, et partagea sa condition de proscrit. Il nous en livre ainsi un portrait familier, fraternel, laissant apparaître la maladresse trouble et douloureuse qui colle à cet homme dépourvu d'assurance. Ainsi Dante se fait plus proche de nous, et Mandelstam insiste sur l'importance de l'arracher aux commentaires scolastiques pour le rendre contemporain. Il affirme ainsi « Il est absurde de lire les chants de Dante sans les tirer vers l'actualité. Ils sont faits pour cela. Ils sont des projectiles pour saisir l'avenir. Ils appellent un commentaire au futur. Son actualité est inépuisable, indénombrable, intarissable. »
Alors justement, où se trouverait aujourd'hui, selon vous, notre proximité avec Dante, Pierre ?
Alors, il se trouverait partout et nulle part, puisque Mandelstam nous explique que la poésie s'installe en dehors de l'espace. Et que l'enfer de Dante n'a ni contenu, ni volume. Au contraire, et quoi de plus actuel, Mandelstam affirme que l'enfer est une épidémie, et comme toute contagion, sans occuper l'espace, il se propage dans l'espace. Il ne nous reste donc plus qu'à chercher aujourd'hui le vaccin caché dans les pages de la Comédie.
Ben oui, on se met tout de suite à sa recherche. Merci beaucoup Pierre pour cette analyse du livre Entretien sur Dante qu'on peut trouver en français aux éditions Dogana. Et vous écoutez la Compagnie des œuvres sur France Culture au dernier moment de notre série consacrée à l'italien Dante Alighieri. Nous nous intéressons à ses relectures plus contemporaines grâce à Jean-Pierre Ferrini, l'auteur notamment du livre « Lecture de Dante » paru aux éditions Hermann.
c'est parmi les cercles effrayants tracés par le poète florentin dans les flammes qui ne s'éteignent jamais et les laves qui bouillonnent toujours, qu'il a laissé errer librement son imagination. Outre des groupes importants, cette vaste composition lyrique comporte plus de 300 figures, toutes différentes d'attitudes et de sentiments, exprimant chacune synthétiquement une forme de la passion, de la douleur et de la malédiction humaine. En examinant ces bouches tordues, ces poings convulsés, ces masques éperdus le long desquels coulent des larmes sans fin, il semble qu'on entend retentir les cris de la désolation éternelle. Les battants de la porte sont divisés en deux panneaux, séparés chacun par un groupe, formant en quelque sorte marteau. Sur le battant de droite, Ugolin et ses fils. Sur celui de gauche, Paolo et Françoise de Rimini. Rien de plus effrayant que le groupe d'Ugolin. Maigre, décharné, les côtes saillant sous la peau que trouent les apophyses, la bouche vide et la lèvre molle d'où semble tomber au contact de la chair une bave de fauve affamée, il rampe, ainsi qu'une hyène qui a déterré des charognes, sur les corps renversés de ses fils, dont les bras et les jambes inertes pendent çà et là dans l'abîme.
Ça, c'était un texte extrait d'un texte de d'Octave Mirbeau, pardonnez-moi, sur Rodin, paru dans La France en février 1885, élu par Emmanuel Lemire. On parle des relectures par les écrivains, mais on peut peut-être parler des relectures de Dante par un sculpteur, en l'occurrence par Rodin, Jean-Pierre Ferrini.
Rodin relève un peu dans... de l'exception, enfin il fait partie des exceptions. Alors en 1822, la barque de Dante de la Croix avait été quelque chose de...
Il y a beaucoup de sculptures de la Seine justement avec Ugolin et ses enfants.
Ugolin, il y a aussi le baiser pourrait être aussi une sculpture représentant Paolo et Francesca. C'est-à-dire que Rodin ne s'est pas simplement contenté d'illustrer la Divine Comédie, même si les dessins sont absolument prodigieux, qu'il réalisait en parallèle donc de ses sculptures en préparation. Moi je vois plus ça comme un catalogue de sa propre œuvre, cette porte de l'enfer. Hein. C'est pas simplement une illustration. On n'est pas du tout chez Gustave Doré avec Rodin. Il n'illustre pas Dante. Hein. Justement,
on peut pas vraiment illustrer la vision de Dante de toute façon.
Il y a beaucoup quand même d'illustrations plus littérales qui ont été réalisées de la Divine Comédie. Hein. Botticelli non plus, d'une certaine manière. Bien sûr qu'il l'illustre, mais il va au-delà de simplement une illustration figurale, littérale du texte. Hein. Il s'empare du texte. Justement, on pourrait reprendre cette notion de mémoire poétique, quelque chose qui se met à presser intérieurement et puis va faire que Rodin sculpte de cette manière.
Hein. Ça devient un peu un inconscient collectif finalement, Dante. Oui. Et du coup, c'est dans toutes les mémoires, dans toutes les têtes, dans tous les esprits, à tel point que, évidemment, les relectures sont nombreuses, parce que ça fait vraiment partie de notre culture à tous.
Oui, bien sûr. Oui, on cite souvent le premier vers, hein, Nel mezzo del cammin di nostra vita, hein, c'est un mi ritrovaille.
Au milieu du chemin de notre vie.
C'est ça, de notre vie, hein, ce pluriel, hein, ce qui a fait dire à Ezra Pound, que Dante était nous tous, hein, il utilisait l'expression « every man », hein, mm-hmm. Nous tous, donc tout homme, hein, ce jeu, hein, qui entre dans la forêt obscure au début de la Divine Comédie, hein, c'est un « nous », hein, c'est ce « every man », c'est ce « nous tous hein, ». Mm-hmm. Ezra Pound en a très bien parlé de ça.
Alors, il faut signaler aussi quand même que le secrétaire de Rodin, ça a été Rilke.
Rilke, oui.
Et que Rilke, dans ses élégies, fait intervenir d'une manière détournée.
Alors en essayant de coordonner Rilke à Dante, bien sûr que Dante est présent dans l'œuvre de Rilke, mais j'ai eu un petit peu de mal. Alors le Dante de Rilke, je pense, c'est plus un Dante style novice. La Vita Nova, je pense, est un texte qui devait qui l'a sans doute plus marqué que la Divine Comédie, mais il s'est mis à lire Dante à travers Rodin, hein. Et par exemple au chant 19 de l'enfer, quand les papes qui sont dans un trou avec les pieds qui gigotent, Rilke évoque dans son texte sur Rodin que ce sont des pieds qui pleurent, hein. Et alors lui, évidemment, sa lecture est plus douloureuse, hein. Les pieds pleurent vraiment. Il ne perçoit pas, si vous voulez, l'image qui peut être aussi comique, hein. Mm-hmm. La Divine Comédie, hein, est aussi un texte, même en enfer, où il peut nous arriver de rire. Ces papes avec ses pieds qui gigotent, c'est quand même une image assez, assez forte.
Oui, tout à fait. On peut imaginer aussi que...
C'est un système d'ailleurs assez impressionnant que Dante invente, parce qu'il y a un pape qui est fiché dans un trou, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, je vous en prie.
L'autre qui va arriver et qui va replonger au fond du trou le pape qui y était. Enfin, c'est toute une image assez folle qui ravissait par exemple lecteurs comme Beckett, mais aussi Joyce.
Et Pasolini alors, parce que c'est quelqu'un qu'il faut citer.
Bien sûr, mais on en a...
Parce que parce qu'il est italien.
Oui, bien sûr, on a bien sûr, je me rends compte qu'il y a des noms qui n'ont pas encore été... Pasolini fait vraiment partie des grands lecteurs de Dante. On a très peu parlé aussi, je vais venir sur Pasolini, de T.S. Eliot, mais en France aussi, je me rends compte, mais peut-être qu'on en parlera, et ça a beaucoup compté pour Jacques Henrisset, la lecture de Philippe Solers, qui quand même en 1965, au moment donc du 700e anniversaire de la naissance.
Alors on fait Pasolini et puis on fait Solers après.
D'accord,
Pasolini d'abord.
Alors Pasolini, évidemment, c'est un... Je dirais qu'avec Mandelstam, alors tout autrement, Mandelstam, comme ça a été très très bien rappelé, est un des meilleurs guides, je pense, effectivement. Son entretien sur Dante est un texte difficile, mais insaisissable, mais qui est vraiment prodigieux. Pasolini a écrit sur Dante, notamment un texte, La volonté de Dante d'être poète, mais il a surtout essayé de s'emparer de Dante, et un peu comme Ezra Pound, mais différemment, de le traduire, si vous voulez, c'est-à-dire que d'imaginer aussi quelque chose qui pourrait être une Divine Comédie.
Pensez à sa Divine Humésis.
Je pense à sa Divine Humésis.
On peut me dire ce que c'est que ce texte qui assimile peut-être l'enfer à la société de consommation, je ne sais pas.
Oui, alors Pasolini commence dans les années 60 à écrire ce texte, il va l'abandonner et en fait il imite, enfin nous avons que deux chants achevés, le premier et le deuxième, et dans ces deux premiers chants, donc de la Divine Humésis, il imite les premiers chants de la Divine Comédie. C'est-à-dire qu'il rejoue Dante. C'est-à-dire qu'il se met à la place de Dante et il va se retrouver dans une forêt obscure qui n'est pas la forêt, évidemment, de Dante. Cette forêt médiévale, c'est une forêt beaucoup plus contemporaine. Et il va, comme Dante, rencontrer aussi un Virgile. Alors, il se dit, ce Virgile, ça pourrait être Gramsci, ça pourrait être Rimbaud. Ça pourrait être aussi Charlot, mais Charlie Chaplin, mais finalement.
Donc un guide, enfin.
Oui,
qui parce que voilà, c'est le faire avancer.
Voilà,
sur
c'est
le
ça, c'est la
vie.
Fameuse, voilà, c'est la fameuse rencontre au champ 1 de l'enfer, hein, où Dante aperçoit Virgile qui va donc le par l'intermédiaire de Béatrice le sauver, enfin, et le guider en enfer, hein. il voit donc qu'un long silence avait tout affaibli. Hein, Pasolini s'arrête beaucoup sur ce long silence, hein, mais aussi sur ce fiocco. Hein. C'est un petit peu comme ça que Dante nous apparaît, un peu fiocco, hein, affaibli. Hein, et c'est comme ça aussi que les écrivains le perçoivent. Mais en tout cas, il va donc rejouer cette rencontre et finalement, ce Virgile va s'avérer être lui-même. Mais lui-même, jeune poète, poète des années 50. Donc c'est un Pasolini vieux qui se rencontre lui-même au moment où il commençait à écrire de la poésie. Ce poète des années 50 dans une Italie jaunie justement par le silence, par un long silence.
Dante, explicitement, se situe comme quelqu'un qui veut écrire un livre qui serait le livre des livres, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que d'abord, il prend sa référence majeure dans l'Antiquité avec Virgile. La Divine Comédie ne peut être écrite au sens littéral que par rapport à Virgile. C'est-à-dire que par rapport à un certain état du latin, à un certain état poétique du latin, dont la référence idéale est Virgile.
Même par rapport à un certain schéma qui est celui de l'Énéide.
Et bien entendu, l'Énéide. Et c'est si vrai, si vous voulez, que on peut dire que Virgile, dans la Divine Comédie, en tant que personnage entre guillemets, représente tout simplement est le simple représentant de l'Énéide au sens poétique, au sens linguistique. D'autre part, ce symbolisme du livre pour Dante est extrêmement vaste puisqu'il recouvre non seulement ce qu'il appelle le livre de la mémoire, tel qu'il est employé dans la Vita Nova, mais aussi le livre des actes, le livre du passé, si vous voulez. Il recouvre aussi le fait que le monde est un livre, et en même temps, le fait que tout écrivain et tout penseur, à ce moment-là, a se confronter avec ce livre, qui est l'écriture, avec un grand E, qui est tout simplement, évidemment, la Bible. Par conséquent, je crois que Dante, dans son projet de totalisation, essaye de vivre complètement cette situation extrêmement vaste qui est celle de l'écriture d'un livre qui résumerait et qui serait la totalisation de tous les livres au moment où ils se placent. Bien entendu, ça va donner, à l'époque de Dante, un certain type d'œuvre qui aura trait à une certaine mythologie qui n'est plus la nôtre, bien entendu, ou qui est sensiblement morte et déplacée. Mais enfin, je crois qu'il faut se tenir à ce projet extrêmement radical de totalisation du langage et du livre pour saisir dans son entier l'œuvre de Dante et la manière dont il va vivre ce livre, n'est-ce pas, en tant que sujet.
Philippe Solers, on avait dit qu'on en parlerait. Le voici, il était interrogé par François Val en 1965. Philippe Solers qui s'est inspiré de Dante pendant 50 années. Il est l'auteur d'un livre intitulé Paradis, d'un autre intitulé carrément La Divine Comédie, qui rassemble des conversations sur la Divine Comédie qu'il a eue avec Benoît Chantre. En fait, Solers cheminait avec Dante depuis très longtemps. Il avait aussi écrit Dante et la traversée de l'écriture, publié par Tel Quel dans les années 60. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au sujet de Solers ?
C'est-à-dire que c'est ce qu'on essayait de dire au début avec ce poète qui perd sa majuscule et ce texte de Dante qui se met à gagner lui en majuscule. Je pense que en France, en tout cas, puisque cette lecture-là existait ailleurs avec les quelques écrivains que nous avons évoqués, je crois que Solers a vraiment contribuer à mettre l'accent sur l'écriture de Dante. Hein. Dante est la traversée de l'écriture.
Est-ce qu'il le lisait dans le texte, hein, il le lisait en italien. Parce que du coup, si les questions de l'écriture, la traduction est très importante, non ?
Il le lisait, disons, ou il le lit dans une forme de bilinguisme, si vous voulez, à la fois en italien et aussi en français. Il faut bien que les traductions servent à quelque chose. Et donc il s'agit aussi de traduire un Dante en français. Bien sûr que surtout lorsqu'il s'agit de poésie, il faut toujours aller du côté de l'original, c'est-à-dire de l'italien concernant Dante, mais il est toujours aussi intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans ça, hein, dans son passage dans l'autre langue. Hein. Donc c'est ce rapport-là aussi. Le texte, c'est ça aussi. Hein, c'est aussi le texte traduit. Hein. Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traduit Dante, hein, et je crois que la manière dont Soler s'en a parlé a joué aussi dans la manière dont Jacques Nessé a traduit Dante. Donc c'est cette traversée de l'écriture, c'est cet accent mis en France, en tout cas, sans doute jamais, sans doute avec cette ampleur, qui fait que Philippe Soler reste un lecteur important dans la réception de Dante.
Et assez drôle aussi.
Il y a des formules très belles, si je puis, qui sont, par exemple, il dit que Béatrice s'efface dans l'écriture qu'elle suscite, vous voyez, Béatrice s'efface dans l'écriture qu'elle suscite, c'est quelque chose. Donc Béatrice se retrouve comme Jean-Claude Milner l'a rappelé dans un très beau livre qui s'appelle L'amour de la langue, Béatrice se retrouve aussi en tant que femme, se retrouve aussi en position de langue, de la langue, vous voyez. Donc ça, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on perçoit dans la lecture de Solers. Et puis Solers aussi a beaucoup insisté, donc évidemment il a écrit un livre qui s'appelle Paradis 1, Paradis 2, mais qui forme un ensemble. Et c'est vrai qu'il a beaucoup insisté sur l'énergie paradisiaque, si vous voulez. Alors c'est sa guerre du goût, hein, contre le nihilisme, hein. Donc il a essayé aussi de pour lui ça, il répète souvent que ça commence, que sa lecture commence par le paradis et non pas par l'enfer. Voilà ce qu'on peut en dire, mais on en a peut-être, excusez-moi, je prends les choses un peu dans le désordre, mais justement, on n'a peut-être pas suffisamment dit concernant Pasolini que lui, en revanche, il s'est vraiment penché sur la question de l'enfer, hein, et un enfer chez lui qui devient un enfer capitaliste, hein, mais qui n'est pas si étranger d'ailleurs à l'enfer de Dante, parce que il s'agit aussi de ça dans l'enfer de Dante, et Ezra Pound, avec les usuriers, oui, l'a beaucoup rappelé.
C'est tout le côté, hein, politique de Dante.
Le côté politique, c'est ça. Hein. Il y a une violence politique dans le texte de Dante, y compris au paradis, hein, qui est assez. Enfin, il y a des colères, hein, même de Saint-Pierre, contre le monde qui vit mal. Et je crois que les derniers mots de Béatrice, ils sont réservés au pape Boniface que Dante haïssait.
Hein. Ben voilà, qui nous donne envie de rouvrir Dante avec les yeux des écrivains qui ont suivi et qui l'ont relu. Merci beaucoup Jean-Pierre Ferrini d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler donc de ces lectures de Dante à partir de votre livre paru chez Hermann. On peut aussi se reporter à votre autre livre également paru chez Hermann, Dante et Beckett. C'est la fin de cette Compagnie des œuvres, une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jean-Guilain Meige. La semaine prochaine, à l'occasion de l'exposition qui lui sera consacrée dès mercredi au Centre Pompidou à Paris, nous parlerons de Matisse et de son bonheur de vivre. Mais tout de suite sur France Culture, c'est les sciences que vous retrouvez.